France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Tous en thérapie ce soir, inutile de vous allonger chez vous. Si vous connaissez un peu le principe, vous savez qu'on peut aussi bien rester assis, d'ailleurs, chez son psy. Si vous regardez la télé, vous le savez aussi, il n'est pas impossible que cette série d'Arte en thérapie, à elle seule, contribue à démystifier, à dédramatiser, à désacraliser ce que peut être une psychothérapie ou une psychanalyse. Et en cela, ma foi, c'est une thérapie. Sans doute, cette série contribue-t-elle à faire sauter des clichés qui parfois ont la vie dure, du type peu amène, qui vous laisse parler tout seul et vous prendra 90 euros deux fois par semaine. Alors que, et vous en témoignerez ce soir, il n'est pas nécessaire d'aller mal pour voir un psy. Vous pouvez partir évidemment quand vous voulez. Il n'est pas question d'autre chose que de dénouer des blocages, d'entrer dans un sas de décompression. Il n'y a pas qu'une série, bien sûr, pour comprendre tout cela. Le chemin, il est déjà bien entamé. Regardez comme on a eu besoin des psys pendant la pandémie. Le monde extérieur est anxiogène et peut peser sur nous. L'éco-anxiété se discute dans ces cabinets-là. Le choix avant le deuxième tour qui vous tord les boyaux pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'il vous dit et qu'est-ce que vous en dites? Et même s'il est reçu très diversement par les psys, on en parlera peut-être, ce dispositif Mon Psy, qui propose 8 séances gratuites, nous dit à quel point parler à un inconnu qui saura vous indiquer quelques clés peut vous aider à avancer. Parce que les crises sociétales qui sont répétitives dans ce pays en ce moment, qui sont violentes parfois, ont un impact sur notre vie psychique. Tous en thérapie, c'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Valérie, vous êtes la première, soyez la bienvenue et bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Valérie.
Alors moi, je suis en thérapie depuis 2013 avec une psy, donc une femme. En face à face, et auparavant j'en avais suivi une autre avec un homme, et j'ai donc on va dire deux parcours de thérapie différentes. Je suis issue de la région centre, et d'une famille plutôt modeste qui ne pensait vraiment pas non seulement aller voir un psy, mais qui même avait une idée de la psychothérapie très très négative. Mmh. Et je dirais que voilà, mes sœurs et moi, nous avons un passif familial assez lourd. Et suite à un problème avec notre père d'abandon. Et j'étais la première à faire cette démarche. Mes sœurs ne sont pas en thérapie, mais ont à un moment donné exprimé le besoin de faire quelques séances. Et mon neveu et ma nièce, donc, qui sont des enfants d'une de mes sœurs, ont aussi un moment de leur vie, un coup dur de leur vie, eu besoin aussi de voir un psy, et donc je pense avoir un peu contribué à banaliser cet acte, comme on irait voir un généraliste ou son ORL, vous voyez. Et moi-même, bon, je suis parisienne, donc c'est vrai qu'ici c'est quand même beaucoup plus banalisé, hein, facile aussi d'aller voir un psy. Là où ma famille habite, dans la région centre, c'est en plus un milieu rural, voire agricole. C'est pas du tout évident, mais petit à petit les temps changent, et l'idée qu'on se fait d'une thérapie change aussi, et beaucoup plus acceptée, même normalisée.
Vous y êtes, Valérie, pardon, je voulais pas vous interrompre, mais voilà. Eh ben merci beaucoup pour cette jolie entrée en matière et pour cette discussion qui va pouvoir s'amorcer grâce à vous. Et avec vous aussi, Catherine Grangère, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste et psychosociologue. Il y a une chose que je retiens dans ce que nous dit notre amie Valérie, c'est au fond, il faut banaliser l'acte, en fait, comme on va chez l'ORL et comme on va chez le médecin généraliste. Faut-il vraiment banaliser, en fait? Est-ce que c'est le mot que vous emploieriez? Je vous ai vu tiquer et je comprends pourquoi.
Oui, c'est pas banal d'aller faire le point avec soi-même. C'est pas banal d'aller voir un spécialiste pour exprimer un monde intérieur qui fait difficulté. Que ce soit quelque chose qui soit possible, facilité, facilité par le fait qu'il y ait un certain nombre de thérapeutes, de psychanalystes ici et là, c'est tout à fait important et même essentiel. En revanche, banal, ce n'est pas vrai. C'est toujours quelque chose qui est remuant que d'aller creuser au fond de soi. Chacun à un passé. Valérie, elle a parlé de passif. Moi, je dirais vraiment que tout le monde a un passé et que si on a un passif, il est vraiment très important de pouvoir le mettre en place, de ne plus être actif en permanence dans nos choix de vie et dans notre quotidien, dans notre présent.
Ce qu'elle raconte, Valérie, c'est que ça, c'est son choix. C'est intéressant de voir que sa sœur a fait un choix différent, les nièces ont fait un choix différent. Je trouve ça intéressant de voir comment, dans une même famille, avec les mêmes problèmes, j'y mets des guillemets, parce que chacun a évidemment des problèmes différents, mais la solution peut être différente. À la place de banaliser, est-ce que dédramatiser, c'est un terme qui vous plaît mieux? J'entends ce que dit Valérie quand elle dit « Dans ma famille, on n'avait pas ça, parce que il y a eu une époque où on allait voir un psy parce qu'on était fou et puis rien d'autre en fait. Donc dédramatiser, ça vous démystifier, qu'est-ce que vous préférez en fait?
J'aime bien dédramatiser, démystifier. En fait, on voit, Valérie a tout à fait raison, que c'est très culturel dans certaines familles et puis dans le milieu de ville, il est plus facile d'aller chez le psy. Dans d'autres familles, on y va parce qu'on est fou. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va très très mal. Donc, il y a quelque chose de très important dans le fait de démystifier, de dédramatiser, d'aller parler de soi avec quelqu'un avant que ça aille très très mal et d'être en thérapie afin d'éviter que ça aille très très mal et de liquider le passif.
Puisque c'est la raison pour laquelle on a eu envie d'aborder ce sujet-là, cette fameuse série, comme ça on peut évacuer ce sujet aussi dont on parle, est-ce qu'elle vous aide en fait à montrer tout simplement la simplicité, on va dire, de ce face-à-face?
Exactement.
Ça vous aide?
Oui, tout à fait. Et surtout la deuxième saison.
Ah oui?
La première saison était un peu plus caricaturale. Là, dans la deuxième saison, c'est très pédagogique. Et je pense que la psychanalyse est redevenue sympathique grâce au docteur Dayan.
C'est vrai? Pourquoi elle n'était pas sympa? Qu'est-ce qui n'était pas sympa avant?
Il y a eu beaucoup de critiques sur les psychanalystes. Vous avez parlé de 90 euros par séance.
Avec un type qui dit rien.
Avec un type qui dit rien. Avec quelqu'un qui n'est pas du tout humain. Tandis que dans la série, le psychanalyste, on voit même tous ses drames internes, tous ses drames personnels. Et puis sa contrôleuse, Gainsbourg, elle aussi, il y a des tas de soucis. Donc vous voyez, tout ça, ça rend service à la psychanalyse parce que ça montre le cheminement que font les uns et les autres, les patients, pour aller mieux, pour devenir plus serein, pour poser autrement les questionnements qui sont les leurs.
Ce que ça montre aussi, et forcément on y viendra au cours de cette émission, c'est jusqu'à quel point c'est le réel qui envoie vers vous. La première saison parlait des attentats de 2015, celle-là parle beaucoup du confinement, on est en plein milieu de ça, ça montre jusqu'à quel point, au fond, c'est souvent ce réel-là qui emmène jusqu'à vous, et que le réel est même le sujet de la consultation parfois.
Ça, c'est merveilleux de voir que l'influence de la société, l'influence de l'extérieur va toucher profondément chacun des individus et différemment selon notre psychisme. Donc, on voit que on subit des événements et qu'ils deviennent intimes. C'est ce lien entre l'intime et le politique que nous mesurons vraiment bien avec la série en thérapie.
Et est-ce que vous le mesurez mieux dans l'époque qu'on traverse? Je le disais tout à l'heure, on en a même fait un téléphone sonne il n'y a pas si longtemps. On a traversé une pandémie, c'est quand même la chose la plus incroyablement inédite qui nous soit tous arrivée. On traverse aussi une guerre en ce moment qui nous est extrêmement proche, en termes de kilomètres en tout cas. On est dans une période politique qui est difficile. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que le télescopage du réel envoie plus de gens chez vous, fait qu'il se dit des choses différentes dans vos cabinets aujourd'hui que peut-être il y a quelques années?
Absolument.
Vous sentez cette différence-là?
Absolument. Deux ans de confinement, d'angoisse sanitaire, ça a une influence sur la vie intime des citoyens. Par ailleurs, cette guerre aux portes de l'Europe a aussi une influence. Oui, l'angoisse politique existe. Oui, l'éco-anxiété existe. Oui, tout ceci se dit dans nos cabinets. On ne parle pas que de notre vie personnelle, parce que le social et le politique, c'est aussi notre vie personnelle. Mmh. Il y a un lien entre ce qu'on vit globalement, sociologiquement, et ce que l'on vit au sein de nos familles, dans nos relations interpersonnelles. Donc tout ceci, de nos jours, se dit beaucoup plus qu'il y a 15-20 ans. Mmh. Ça, c'est vraiment perceptible. Et je pense que c'est très important de se rendre compte que certaines paroles politiques ont une influence sur la vie intime des gens, et qu'on ne peut pas laisser passer certains propos sans se dire que ce n'est pas grave.
Est-ce que ça veut dire que c'est la politique aujourd'hui, politique au sens large d'ailleurs, oui, qui est plus violente, et c'est pour ça qu'elle vient dans vos cabinets aujourd'hui, ou est-ce que c'est parce que on s'en empare, nous, différemment, et on le fait rentrer dans notre sphère intime aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 15 ans?
J'opterais plutôt pour la violence des propos de nos politiques. J'opterais plutôt pour, au cours de cette pré-campagne des présidentielles, quelque chose comme des verrous qui ont sauté, comme des refoulements qui se sont estompés. Et ceci est très inquiétant pour le public, pour les gens, pour les patients que nous recevons. Ceci se dit plus parce que quelque chose est moins policé chez les politiques. Et cette violence se retrouve dans les rêves, se retrouve dans le quotidien, aussi parce que nous parlons, je vais donner un exemple de harcèlement. Nous parlons de harcèlement. Mais lorsqu'il y a des propos qui ne respectent pas l'extériorité d'un individu chez les politiques, évidemment que ça autorise des harcèlements selon le faciès, selon l'origine. Et ceci traumatise des gens. Donc, nous avons le Covid, nous avons la guerre, nous avons une campagne présidentielle avec une violence qui ne se maîtrise pas. Donc, oui, évidemment, c'est présent sur le divan.
On va revenir à ce que vous dites. Je voudrais qu'on écoute Clémence. Bonsoir, Clémence.
Mais bon, on écoute Clémence maintenant.
Oui, Clémence. Je vous entends, Clémence.
Ah, bonsoir, Fabienne.
Alors, allez-y.
Je voulais apporter mon témoignage. Donc, j'ai, moi, été suivie longtemps par une psychologue que j'ai beaucoup aimée, qui m'a fait beaucoup avancer et qui m'a appris plein de choses sur moi. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est important, si on a des questionnements, de se faire suivre par un psychologue ou un psychologue, parce que ces gens sont des gens en général lettrés, instruits, qui savent manier la psychologie humaine, les symboles, et qui peuvent aider en fait tout un chacun.
Et j'entends venir un mais quand même, Clémence.
Un mais.
Ouais.
Je ne sais pas d'où vient le mais, mais.
Ah bah c'est ce que je croyais entendre chez vous, mais je vous en prie, allez-y.
Et oui, alors aucune idée d'où vient mon mais, en tout cas, j'ai été beaucoup aidée par cette psychologue tout le temps. Et pour revenir au début du propos, on parlait du confinement. Et en fait, j'ai été moi beaucoup aidée par cette psychologue. Et en fait, au moment où est arrivé le confinement, j'ai eu de moins en moins besoin de cette psychologue, puisque j'ai réussi à me recentrer sur moi-même, je pense parce que j'étais moins sujette à des stress issus de l'extérieur de la société. Alors j'étais à cette époque-là parisienne, depuis je suis partie, j'habite en Bretagne, Mais en tout cas, cette psychologue m'a beaucoup aidée à évoluer dans mes pensées. Mais, et sinon, c'est là où est le mais.
Je me disais bien, je le sentais venir. Allez-y.
C'est là où est le mais. J'ai réussi à évoluer grâce sans doute au confinement vers une pensée qui m'était plus propre et qui était moins polluée par l'extérieur et plus pure, même si le terme n'est pas forcément très adapté. Mais à nouveau, je pense que voilà, la psychologie et la psychanalyse est très intéressante. J'ai été vraiment très aidée par cette psychologue et j'ai pu moi-même évoluer par un certain confinement, un certain retrait sur moi-même. Une vie plus tranquille.
Et vous n'y êtes pas retournée, Clémence, rapidement, après le confinement, après cette pause qui vous a été finalement salutaire.
Non, je n'y suis pas retournée.
D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage, Clémence. Catherine Grangeard, ce que je retiens dans ce qu'elle nous dit, c'est bon, j'avais le bagage, en fait. Donc, du coup, après, pendant cette période qui est si compliquée, moi, au contraire, en fait, puisque j'avais le bagage, je l'ai traversé finalement assez sereinement.
Il y a une certaine... partie de la population que j'appelle, moi, les confinés contents, les cocos, les confinés contents. C'est-à-dire des gens qui se sont recentrés, comme dit notre auditrice, sur elles-mêmes, sur eux. Et grâce au fait d'être moins pollués par l'extérieur, comme elle dit, eh bien, il y a quelque chose qui a pu s'éclaircir. Effectivement, le bagage qu'elle avait pu constituer par le travail psy fait avec cette gentille psychologue, eh bien, ce bagage lui a permis de se poser.
Ce que j'entends.
Et de déménager.
Elle parle de ce moment qui a été calme. En fait, vous nous parliez tout à l'heure d'angoisse et de violence politique. Et au fond, pour certains, peut-être que ce moment-là, ça a été la possibilité de se sortir de cette immense violence politique dans laquelle nous sommes plongés depuis plusieurs mois.
Oui. Lorsque certaines personnes peuvent faire le point, c'est toujours positif. Et il y en a qui, grâce à l'isolement, ont mieux réussi à faire un point que lorsqu'il faut prendre le métro, lorsqu'il faut s'affronter à des collègues avec qui ça peut pas toujours fort bien se passer. Mais beaucoup d'autres ont souffert de l'isolement parce que lorsque ça se passe pas bien avec soi-même, eh bien, c'est pas possible. Lorsque ça se passe pas bien avec le reste d'une famille, ce n'est pas bien non plus.
Elle dit, Clémence, j'en ai plus besoin. À quel moment on le sait, ça? Est-ce que vous êtes confrontée aussi à des gens qui ne savent pas s'arrêter? Faut-il leur dire, à un moment, je crois qu'on a fait le tour, comment ça se passe?
Il y a des gens qui sont installés et qui, peut-être, y trouvent quelque chose. Donc, c'est très difficile de dire à une personne, peut-être vous avez fait le tour, parce que ce serait comme un rejet, comme une sorte d'abandon, vous ne m'intéressez plus maintenant. Donc, non, je crois que nous avons besoin d'être en accueil, jusqu'au moment où une personne émet le fait que peut-être elle a fait le tour, et nous, là, oui, on peut confirmer. Mais d'autres personnes vont encore avoir besoin de continuer, même si le tour semble avoir été fait, mais pour d'autres raisons, pour une solitude extrême, par exemple, ou pour quelque chose qui est de l'ordre de ne pas avoir trouvé sa place nulle part dans l'existence. Au moins là, tel jour à telle heure, eh bien, il y a quelqu'un qui vous écoute, qui s'intéresse réellement à ce qui se passe pour vous. Donc, c'est très compliqué de dire à quelqu'un d'arrêter. En revanche, la plupart des gens, au bout d'un moment, vont dire... Madame, j'aime bien venir vous voir, mais je vais me passer de vous, et auquel cas, bon vent.
Et il faut que j'arrive à avancer seule aussi un moment, donc peut-être à bientôt, cela dit, on a le droit de vous dire à bientôt
naturellement,
aussi,
j'imagine. Et on précise toujours que la porte reste ouverte. Naturellement, on va être toujours une sortie de secours, si nécessaire, si le monde est vraiment complexe et compliqué, parce que ça, ça n'est pas écrit d'avance. Vous parliez du réel qui peut être trop violent pour certaines personnes.
C'est ce que j'allais vous demander en fait. Est-ce que c'est le réel qui peut renvoyer quelqu'un chez vous?
Bien sûr.
Tellement ce qui se passe à l'intérieur pour une histoire qui serait familiale ou qui serait... Mais c'est... est-ce que c'est le réel qui vous renvoie? Je pense à la période électorale qui nous touche maintenant. Par exemple, je parlais d'un choix qui tord les estomac tout à l'heure dans l'introduction, c'est vrai qu'il y a des choix aujourd'hui qui tordent l'estomac. Est-ce que c'est ce réel-là qui ramène les gens vers vous, là en ce moment par exemple?
Oui, là en ce moment, je vais vous donner un exemple. Le 24 avril, jour du second tour, c'est la journée du souvenir, c'est-à-dire des déportés. Et il y a une personne dont la mère a été déportée, qui me dit « Je ne peux plus supporter les gens qui parlent d'abstention. Je ne peux plus supporter de mettre sur le même niveau deux projets de société différents. » Vous voyez, ça, pour elle, c'est ce qui l'a fait revenir chez moi. D'autres, qui n'ont pas leur candidat préféré au second tour, qui vont avoir à faire un choix qui leur convient pas. Un second choix, c'est jamais aussi bon que le premier choix. Et là, ils reviennent parce qu'ils mesurent que s'ils ne se prononcent pas, parce que ne pas choisir, c'est peut-être le 24 à 20 heures pleurer parce que le résultat ne correspond absolument pas à ce que ces personnes voudraient, eh bien, elles se disent « Mais comment je fais pour pas avoir honte ?» Voilà, ça,
la culpabilité, l'impossibilité du choix. Moi, je trouve ça fou que ça finisse dans votre cabinet. C'était autrefois des discussions et des engueulades qu'on avait avec ses amis ou au comptoir. Et on mesure la violence qui peut y avoir aujourd'hui quand c'est dans votre cabinet que ce genre de discussion termine, en fait.
Enfin, Fabienne, je vous rassure, ça continue à exister au comptoir, entre amis, il y a même des gens qui rompent parce que le choix des autres n'est plus tolérable, les plaisanteries, tout ce qui se partage sur WhatsApp, etc., etc., vous voyez. Donc, oui, ça peut se terminer.
Mais ça passe par chez vous, à un moment
ça
ou à un
autre. Ça peut passer par chez moi. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on peut exprimer le fin fond de ce qu'on pense. C'est un endroit où quelqu'un vous écoute et quelqu'un peut vous entendre élaborer différentes stratégies électorales sans qu'on vous juge. Et accompagner, comme a dit l'auditrice précédente, accompagner une personne dans ses doutes, accompagner une personne au travers de tout ce qui la perturbe très profondément. Parce que l'intime est réellement politique, parce que peut-être on a découvert ça depuis quelques années. Peut-être c'est plus réel désormais qu'on n'est pas saucissonné entre sa famille, sa vie amoureuse et la vie politique. Moi, je crois que c'est bien que ça se termine chez moi. Je crois que c'est
le
bien.
Le sas, vous êtes le sas.
Voilà, que l'on puisse venir ailleurs qu'au bistrot, parler de ce qui, finalement, perturbe. Vous voyez, c'est ça, c'est que le stress électoral, on en avait parlé chez Trump. Eh bien, désormais, en France, on est en plein stress électoral. Et ça a une incidence sur des gens qui se posent beaucoup de questions et qui se disent pas, mais de toute manière, ça va se faire. Mais non, une voix, c'est une voix. Il y a des gens qui ont conscience de cette responsabilité.
L'intime est politique, je retiens cette phrase. Et je vous salue, Mireille, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je vais taper au parleur parce que pendant ce temps-là.
Oui, c'est mieux.
Oui, c'est pendant que j'ai attendu, j'ai fait la cuisine.
Ah, bah tant bonsoir. Mieux. Bah, très bien, bonsoir à vous.
Voilà. Je ne peux pas rester sans rien faire.
Absolument.
Donc voilà, moi je téléphone parce que quand j'étais petite, j'ai eu une enfance très heureuse. Quand j'étais adolescente aussi, bon, perturbée, mais ça allait. Et quand j'étais étudiante en médecine aussi. Et enfin, après, j'ai fait des missions humanitaires dans des pays en guerre. Je devais être inconsciente parce que ça ne m'a pas fait peur. Et j'étais très heureuse, c'est ça que je voulais faire. Et puis, j'ai rencontré mon mari, un homme exceptionnel, qui était ethnologue et qui avait lui-même suivi une thérapie, une analyse. et qui m'en parlait en me disant tout le bien que ça lui avait apporté. Je crois qu'il a été resté quand même 15 ans en thérapie. Et parce que mon père, il m'avait dit, les psychiatres, c'est quand on est fou, Mireille. Oui, papa.
Oui, c'est de votre génération, Mireille, pardonnez-moi.
Arrivé à la mort de mon mari, j'ai fait plusieurs psychiatres, les uns après les autres. Je n'ai pas trouvé, et puis donc c'était sur Valence, sur Lyon, sur Amiens, à plein d'endroits, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et enfin à Amiens, j'ai trouvé une femme psychologue qui a pratiqué l'hypnose, dans laquelle je ne croyais pas du tout, et cette hypnose a marché. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a fait progresser dans mon deuil. Je ne dis pas que je suis guérie depuis 30 ans, je ne suis pas guérie. Mais ça m'a permis de vivre à côté et de vivre autre chose que le deuil. Et je fais toujours des séances d'hypnose avec elle, à distance, puisqu'elle est à Amiens et moi ici, à Lyon. Et c'est quelque chose d'extraordinaire.
Eh bien, merci. Voilà. Ben, merci beaucoup, Mireille. On peut vous rendre votre cuisine maintenant. Et merci pour votre témoignage. Ce que nous dit Mireille, Catherine Grangeard, et alors, pour le coup, je pense que ça touche beaucoup de gens, c'est la difficulté de trouver, de se trouver, en fait. C'est une rencontre aussi avec son psy, qu'on fasse une psychanalyse, une psychothérapie, peu importe, en fait. Trouver la bonne personne, c'est un sacré exercice.
Exactement. Trouver la bonne personne, c'est presque plus important que de trouver la chapelle qui convient. Trouver la bonne personne, ça ne se commande pas, vous voyez, c'est pas le titre psychiatre, psychologue, psy, je ne sais quoi.
Faut juste que ça commence par psy, après on voit, quoi.
Exactement. Et puis, cette bonne personne, ça peut être pour une copine, ça peut être pour le mari, ça peut être pour quelqu'un, mais pas pour soi-même. Il y a la bonne personne et il y a le bon moment. Le bon moment, c'est l'instant où on peut décaler les questions. Parce qu'en psychanalyse, peut-être on guérit pas vraiment, mais en revanche, on sauve.
Ça veut dire quoi, décaler les questions ?
Une façon dont on a de se poser toujours la même question. Nous allons la prendre par d'autres bouts. Nous allons pouvoir aider une personne à cesser de répéter. Puisqu'au fond, dans la vie, très souvent, notre drame, c'est la répétition. C'est qu'on ne cesse de faire tout le temps la même chose, et dans tous les domaines que ce soit au niveau amoureux, au niveau du travail, au niveau politique, au niveau de nos investissements associatifs, voilà. On recommence toujours la même histoire avec d'autres gens. Mais notre façon de poser cette histoire peut ne pas être la meilleure façon de faire pour nous-mêmes et pas pour les autres non plus d'ailleurs. Donc, de décaler les questions, ça permet d'avoir des réponses différentes. On ne va pas vraiment se soigner, voyez. On a, la première auditrice parlait d'un passif. On a toujours, de toute manière, une histoire personnelle et on tourne autour. En revanche, on n'est pas obligé d'être dans la répétition. C'est ce que nous apportons à nos patients. C'est ce à quoi nous servons. Nous servons de faire un petit peu autrement, tout en restant la personne qu'on est. Non, on ne change pas de personnalité, on ne change pas d'histoire. Alors à quoi vous me servez ? Ben, je vous sers à faire autrement, avec la même personne que vous êtes et avec la même histoire que vous avez traversée. Mais on saisit différemment les questions et les réponses, c'est ça qui va pouvoir nous aider à nous positionner d'une façon plus heureuse.
Catherine Grangeard, comment on sait, est-ce qu'on sait, pour les gens qui nous écoutent et qui cherchent, est-ce qu'on sait dès le premier rendez-vous que oui, ça va matcher, ça prendra le temps que ça prendra, mais il se passe quelque chose, ou on comprend tout de suite qu'il ne se passera rien ?
Pas toujours.
Voilà, est-ce qu'il faut 4, 5, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs ?
Voilà, ni dans un sens ni dans un autre. Parfois, j'ai des patients qui reviennent en me disant « Mais qu'est-ce que vous m'avez exaspéré la première fois ? Vous m'avez dit, vous m'avez pas dit, vous avez souri, vous avez pas souri. » Bon, bref. C'était pas ça, c'était pas bon. Mais finalement, ça appartient plus à cette personne qu'à moi. Finalement, au premier coup d'œil, ça se matche pas toujours. On n'est pas obligé de prendre une décision immédiate. Ou alors, on a un transfert extrêmement positif parce qu'on a envie d'y croire. Et c'est pas non plus le signe que ça va vraiment bien fonctionner. Non, il faut travailler un petit peu. Il faut se donner un petit peu de temps, il faut voir ce que ça donne, et là, en fonction des évolutions au fur et à mesure des semaines, eh bien oui, quelque chose vient entériner que ça va être possible ou pas. Et parfois, peut-être, le psy n'a pas très envie de travailler avec vous et va vous faire sentir que finalement, c'est pas une problématique avec laquelle le psy est très à l'aise et ça va se jouer à deux. Donc tout ceci, ça se ressent, ça s'élabore et... Lorsque quelque chose est entamé, il peut y avoir des résistances qui font que vous avez envie d'arrêter. Alors là, faites un peu confiance à votre psy. S'il vous dit que non, c'est probablement que vous devez dépasser ces résistances.
Parce que je me mets à la place des gens qui nous écoutent et qui se disent « moi, j'aimerais bien parce que, effectivement, moi aussi, j'en ai sur les épaules et surtout en ce moment, dans la période qu'on traverse. Et en même temps, comme je connais personne, je fais quoi ? J'ouvre pas le bottin. D'ailleurs, le bottin, ça n'existe plus. En regardant à la lettre P et en choisissant au pif. Comment ça marche, en fait ? Est-ce qu'il faut se faire recommander ? Est-ce que le bouche à oreille, ça marche vraiment pour un psy ? Je pourrais en avoir un, moi, qui me convienne absolument merveilleusement bien et qui conviendrait pas du tout à quelqu'un d'autre pour un tas d'autres raisons. Donc, comment on fait, en fait ? Comment ça démarre ?
Il y a beaucoup de façons de venir chez nous. Il y a le bouche à oreille, il y a les orientations qui se font en fonction des problématiques. Par exemple, vous cherchez une personne, vous avez un problème de poids, eh bien, vous cherchez sur Internet le bottin d'aujourd'hui, des gens qui ont travaillé sur ce sujet, des psys qui ont travaillé sur ce sujet, et ça va sortir, vous voyez. Vous avez entendu un téléphone sonne, et vous vous êtes dit, tiens, finalement, les psychanalystes, c'est peut-être ce qu'il me faut. Vous avez regardé la saison en thérapie. Vous avez une approche de la psychanalyse qui peut vous donner envie parce que ce que vous portez sur les épaules, ça va pouvoir être déchargé en cet endroit-là. Il n'y a pas une seule façon d'arriver au même objectif. Et donc, dans ces étapes qui nous mènent, on peut en parler aux uns et aux autres. Parce que c'est pas tabou d'aller chez le psy. Parce que la psychanalyse correspond à une recherche en profondeur au niveau de l'inconscient, au niveau de ce qui nous fait être ce qu'on est, avec des répétitions qui sont souvent problématiques, vous voyez. Et c'est là où on se dit, moi j'en ai ras-le-bol de tous ces échecs amoureux, moi j'en ai ras-le-bol de ce que j'endure au quotidien dans mon couple ou au travail. Et voilà, je vous ai pris l'exemple du rapport à la nourriture, j'en ai ras-le-bol de l'alcool, j'en ai ras-le-bol du tabac, mais ce n'est pas une réponse comportementale mental qui va faire que je vais m'en sortir, parce que ça, je sais bien ce qu'il faut ne pas faire. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout ça, cette réflexion au fin fond de soi qui fait que nous allons chercher la bonne personne.
Fabien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Oui, merci d'avoir pris mon appel. Je voulais partager mon expérience de la première fois que j'ai vu un psychologue et un psychiatre ici à la ville de Lyon. En fait, c'était fin novembre 2020. J'avais beaucoup de difficultés au travail, beaucoup de travail, une charge de travail énorme. J'avais averti à ma hiérarchie des problématiques que j'avais, j'avais des symptômes d'anxiété, j'avais beaucoup de stress. Et il y a eu un moment dans lequel j'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à suivre les réunions de mon entreprise. J'avais un poste de chef de projet digital. Et en fait, je comprenais pas qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Jusqu'un jour, je suis allé voir un médecin. Ensuite, il m'a dit d'aller voir un psychiatre qui m'a dit que j'avais des symptômes anxio-dépressifs. Et ensuite, ils m'ont donné des médicaments. Et après, je trouvais pas comment m'en sortir. Il avait beaucoup de pensées, beaucoup de choses que j'avais dans ma tête suite à ce qui s'est passé au travail. Et ils m'ont dit, après, je suis allé voir un psychologue. Et lui, il m'a dit clairement, vous êtes en train de faire un burn-out. En fait, vous êtes dans un burn-out, vous avez un syndrome d'épuisement professionnel sévère. Et après, j'étais en arrêt de maladie depuis novembre 2020. Je suis en arrêt de maladie suite à ce syndrome d'épuisement professionnel. Et aujourd'hui, j'ai testé différentes approches psychologiques. Et aujourd'hui, je suis suivi par un psychologue avec qui je fais des sessions de EMDR, avec qui je revive toutes les mauvaises expériences que j'ai vécues au travail. Mmh. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et en plus, je suis suivi par des psychiatres dans un hôpital de jour, à la ville de Villeurbanne, c'est à côté de Lyon. Et c'est un hôpital spécialisé dans la prise en charge des personnes qui ont fait un burn-out et des dépressions au travail. Mmh. Et je sens que ça, c'est une vraie chance pour des personnes qui ont eu des difficultés au travail et qui ne peuvent pas s'en sortir, qui ne trouvent pas la fin de...
La porte de sortie, j'ai bien compris, qui ont du mal à trouver la porte de sortie. Fabien, merci beaucoup. Ce que j'entends dans Fabien, Catherine Grangeard, c'est que, dites donc, c'est un sacré parcours hein, quand même. Il y a eu beaucoup de psys qui commencent par psy, puis différentes personnes. Et puis là, il y en a deux à la fois. Parfois, c'est un drôle de parcours quand même.
Parfois, il y a plusieurs prises en charge. Vous voyez, il parle de psychiatre parce qu'il prend des médicaments. Et puis, psychologue parce qu'il va parler avec quelqu'un. Et il a parlé aussi d'un hôpital de jour. Donc les prises en charge multiples sont parfois nécessaires selon les problématiques. Là, il a parlé de symptômes. Et moi, j'aime bien m'arrêter sur ce mot de symptômes. Mmh. Il y a ce qui s'exprime comme le burn-out ou comme un appel. C'est le symptôme. En revanche, ce qui est derrière, ce qui est la cause, c'est tout à fait autre chose. Mmh. Donc, le symptôme, c'est comme la fièvre. On soigne, on fait baisser la fièvre.
Et j'espère que la fièvre a baissé chez Fabien. L'heure est en train de tourner, on n'a pas le temps. J'espère que c'est pas Marie que j'ai entendu dire oh non tout à l'heure, parce qu'on n'a pas le temps, Marie. Mais il y a une fin de question que je voudrais juste prendre en quelques secondes avec vous, Catherine Grangeard, que nous dit Marie. Elle dit c'est exaltant de se découvrir. Est-ce que c'est exaltant de se découvrir ou est-ce que parfois on se dit, moi j'ai pas forcément envie de tout savoir de moi, en fait?
Oh bah oui, tout existe, il n'y a pas qu'un seul profil. Mais moi, forcément, je vais vous dire, c'est exaltant. Forcément, moi, je vais vous dire, c'est le plus beau voyage que ce voyage intérieur dans cette société. Et donc, je pense qu'il est très intéressant, mais d'aller jusqu'où on veut seulement.
Voilà, jusqu'où on veut aller chercher. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous. On en refera des téléphones sonnent comme ça. Vous étiez très nombreux. Merci beaucoup. Merci de vos très nombreuses questions. Portez-vous bien.